Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Cécile Duflot.
Bonjour Cécile Duflot. Merci d'être avec nous. Ce matin sur RTL, vous êtes restée sur la réserve depuis votre défaite à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Vous reprenez la parole, on va en parler évidemment, de dire pourquoi. Mais d'abord, revenons sur l'affaire du jeune Théo, violenté par les policiers d'Aulnay-sous-Bois samedi dernier. Selon RTL, qu'il a révélé tout à l'heure à 7h30, l'IGPN, la police des polices, récuse l'accusation de viol. Son enquête conclut un accident. Vous prenez acte ?
Oui, enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement l'enquête que vous avez révélée. Il y a aussi le témoignage de Théo qui, et je crois que beaucoup de monde l'a fait, et avec justesse, a quand même fait preuve d'une énorme retenue, d'une capacité d'apaisement considérable, alors qu'il a subi des blessures très graves. Donc je pense qu'il faut que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Et on sait bien que dans ces affaires, c'est parfois compliqué. Donc il faudra prendre le temps d'aller au bout de ce dossier. Mais plus largement, on a quand même une situation, et ça révèle une situation très difficile. On a une police à bout de nerfs dans certains quartiers et une jeunesse à bout de patience qui fait souvent l'objet de beaucoup de petites humiliations quotidiennes, que ce soit au moment des contrôles d'identité, que ce soit par des propos, etc.
Une police à bout de nerfs, dites-vous, pourquoi ? Vous avez pourquoi de.
Mais parce que je crois qu'il y a de vrais sujets sur la manière dont on demande aux policiers d'intervenir, y compris dans ces quartiers. On le sait très bien que la fin de la police de proximité, c'est-à-dire des gens qui se connaissaient tout simplement, avec des interventions qui sont dans des interventions massives, plus brutales, de gens qui ne se connaissent pas, on aboutit à des situations de tension. Donc je crois qu'il faut vraiment.
Ce qui vous
absolument
inquiète, c'est effectivement cette relation qui s'est dégradée ces derniers temps, encore, parce qu'il y a. C'est pas nouveau, entre la police de proximité, parce qu'elle est quand même dans les quartiers aussi.
Oui, mais enfin, on voit bien que la brigade qui est en cause n'est pas du tout une police de proximité. Donc je crois qu'il faut réinterroger
c'est
manière.
C'est une police de terrain.
Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance, il peut y avoir des propos qui sont des propos très désobligeants, voire souvent racistes. Une des raisons pour laquelle je défends le récépissé du contrôle d'identité, je pense qu'il faudra y revenir, c'est qu'on met de l'apaisement dans la relation, c'est-à-dire qu'on calme le jeu. Il faut savoir quand même que ces petites humiliations quotidiennes, elles existent. Et c'est pas mettre en cause les policiers, c'est mettre en cause ceux qui font pas bien leur travail. Et parfois, ils font pas bien leur travail parce qu'on les met dans des situations impossibles. Et je crois qu'il faut absolument prendre en compte qu'une partie de la jeunesse de ce pays, aujourd'hui, et en particulier celle qui est noire ou d'origine arabe, donc stigmatisée déjà dans la recherche de l'emploi, l'est aussi parfois, et souvent, les études qui ont été faites le montrent, dans leur relation à la police, en particulier les jeunes garçons.
Il y a un racisme latent dans la police aujourd'hui.
Il y a un racisme dans la société, il faut le combattre toujours, et il existe aussi dans la police, oui bien sûr, et il faut regarder les choses en face. Et ça n'est pas stigmatiser la police, comme ça n'est pas stigmatiser la jeunesse quand on dit qu'il y a des gens et il y a des jeunes qui sont délinquants. Il faut remettre de l'ordre en fait, tout simplement. Il faut remettre de l'ordre, de la loyauté, du calme, et je le dis, la situation est très tendue, il faut regarder la réalité en face.
Alors aujourd'hui, vous revenez dans le débat public, Cécile Duflot, pour encourager à l'union d'une partie de la gauche autour de l'écologie. La première étape, c'est le ralliement du candidat des Verts, Yannick Jadot, à Benoît Hamon. Il faut que ça aille vite pour vous ?
Non, la première étape, c'est justement de se dire qu'enfin, on a l'opportunité d'engager la gauche dans une nouvelle histoire, l'histoire de l'écologie. Ça a débordé, le Parti écologiste, et c'est une bonne nouvelle. C'est Benoît Hamon qui a gagné la primaire des socialistes sur un programme qui est très très proche du programme des écologistes. C'est quand même un événement considérable. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, depuis un certain temps, a nourri son projet de l'écologie. Donc je pense que les convergences existent. Mmh. Le débat sur le fond doit avoir lieu.
Alors
on
fait comment ?
Entre eux aussi.
D'abord le débat sur le pont.
Je sais que la discussion entre Benoît et Yannick existe et c'est une très bonne chose. Elle doit se poursuivre dans les jours qui viennent. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon doit participer aussi à cette
comment
discussion.
Comment le convaincre ?
J'espère que...
Vous aviez effectué un rapprochement, on s'en souvient, avant une rupture au moment des régionales
vous
assez spectaculaires.
Vous savez, moi, je suis toujours pour me rapprocher de celles et ceux qui défendent
mais
des options qui sont des options sur le fond. C'est-à-dire qui disent qu'on va faire en sorte qu'on n'ait plus de pesticides qui polluent la nature et qui nous rendent malades. Ça veut dire qu'on va effectivement réfléchir à un revenu universel qui nous préserve de la fin d'un mode de travail qui est un...
Non, mais ma question, Cécile Duflot, c'est comment convaincre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, de se rapprocher d'un pôle autour de Jadot Hamon. C'est ça l'enjeu.
D'abord, il y a lui, mais il y a aussi tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui le soutiennent et qui le soutiennent parce qu'effectivement, il a été assez clair sur un certain nombre de positions. Mais je le dis, tous ceux et
celles. Lui, dans son programme, il y a la planification écologique, par exemple.
Oui, il y a des différences de termes. Et d'ailleurs, ceux qui ont utilisé ce terme ont dit on a utilisé ce mot pour faire un mot au but. Moi, la question, c'est de savoir si oui ou non, on va vers une France 100% renouvelable, par exemple. Ensuite, sur le terme qu'on utilise. on peut toujours discuter. Le sujet, c'est l'objectif. Et cet objectif-là, aujourd'hui, peut être commun entre ce que défend Benoît Hamon, ce que défend Yannick Jadot, que je soutiens dans cette campagne présidentielle, et ce que défend Jean-Luc Mélenchon.
Je voudrais revenir sur l'accord Hamon-Jadot. S'il se conclut, quand, à votre avis, c'est fait, c'est une question de jour ou pas, d'ailleurs ?
Non, ce n'est pas une question de jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit être une question de dynamique. C'est-à-dire que, et Yannick Jadot l'a bien dit, il faut qu'on se lance dans une aventure collective. Ce n'est pas un accord d'appareil, ce n'est pas des discussions de compromis. C'est dire, est-ce que oui ou non, on veut ensemble faire prendre à la France le grand virage vers l'écologie.
Alors, il y a des incontournables quand même pour ce rapprochement, pour le sceller. Par exemple, la proportionnelle intégrale, elle doit figurer dans le programme de Benoît Hamon.
Je crois qu'on voit bien l'épuisement total de la Ve République et de notre système électoral. Donc, il faut une coalition désirable. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire une coalition...
Qui fait référence au futur désirable de Benoît Hamon.
Exactement. Qui donne envie, qui dit aux gens qui vont voter pour cette coalition, d'où que proviennent d'ailleurs ses membres. Vous allez voir, ensemble, on va engager ce virage vers l'écologie, on va engager la France dans la modernité. Et la modernité, aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on ne s'empoisonne plus en mangeant des produits qui sont des produits nourris aux
pesticides. La proportionnelle intégrale, ça doit figurer une réforme, dans l'accord entre Jadot et Hamon.
Une réforme institutionnelle, c'est nécessaire. Et oui, il faut une proportionnelle à l'Assemblée.
Ce sera la première fois, quand même, je voulais attirer votre attention, celle des auditeurs, que la présidentielle n'aura pas de candidat écologiste depuis 1974.
Alors,
cet effacement-là.
D'abord, attendez. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que le projet écologiste aura un candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, il en a un, c'est Yannick Jadot, c'est sûr. Ensuite, est-ce que ce projet peut nous dépasser l'histoire des écologistes et du parti écologiste pour être un projet porté plus largement? C'est ça la question qui est en jeu. Mais évidemment que moi, je soutiendrai un projet écologiste à la présidentielle. Et aujourd'hui, il est porté par Yannick Jadot, qui d'ailleurs va présenter dans quelques heures le projet qui est le nôtre.
Mais vous êtes d'accord pour qu'à terme, il soit porté par Benoît Hamon? Certains diront...
Je dis qu'on a une responsabilité historique qui est de ne pas rater les moments où on peut converger sur le fond, sur un projet. C'est pas un compromis, c'est pas une espèce de petit commun
dénominateur. Mais il n'y aura pas d'incarnation écologiste en tant que telle, émanation d'un parti des Verts. Ce sera effectivement un ralliement à Benoît Hamon.
Mais moi, vous savez,
j'ai
écrit un livre il y a presque un an qui plaide pour une nouvelle force de transformation, une nouvelle force écologiste. L'idée, c'est pas que chacun reste dans ses petites boîtes. L'idée, c'est qu'on engage la transition écologique.
Mais en montant au front, comme vous le faites, certains diront que vous tentez de récupérer une place perdue et que vous tentez justement d'éclipser Yannick Jadot.
Je ne comprends pas du tout votre question.
Eh bien, il y en a qui disent qu'en plaidant pour le renoncement d'Yannick Jadot ou pour le ralliement, pour la bonne cause, comme vous dites, historique, eh bien, vous tentez de reprendre un peu la lumière après votre défaite aux primaires.
Ah voilà. Oui, d'accord. Bon, enfin, vous savez, il y a toujours des gens qui disent ça, mais ça fait 10 jours que Yannick Jadot et David Cormand se sont exprimés et que ce sont eux, et c'était très bien, qui se sont exprimés sur le sujet. Je mets simplement, mais pas dans les leurs.
Est-ce que vous avez aidé Yannick Jadot à recueillir des parrainages?
Oui, et je vais continuer.
Et il en a combien?
Il en a un peu plus de 400.
Un peu plus de 400, donc il est presque au niveau la qualification.
Et je le dis parce que certains racontent le contraire. Oui. Ils peuvent venir vérifier, ils sont physiquement présents, les papiers.
Donc vous avez été actif pour recueillir des parrainages.
Oui, j'aide Yannick Jadot. J'étais avec lui à la Fondation Abbé Pierre pour son projet sur le logement. Je serai avec lui en fin de matinée. J'ai écrit la lettre qu'il nous a demandé en tant que parlementaire pour alerter le déontologue sur le conflit d'intérêts qui semble avéré de François Fillon, qui a conseillé AXA et qui ensuite, en tant que député, a voté une loi sur le sujet qui concernait AXA. Donc non, on travaille totalement main dans la main.
Alors, petite amabilité de Jean-Christophe Cambadélis, hier, à votre endroit, le patron du PS, qui dit « Cécile Duflot revient sur ses errements, allusion au fait que vous étiez contre la primaire de toute la gauche et que vous plaidez désormais l'unité, on l'entend. » Il a tort?
Ça vous fait franchement
rire? Un petit blanc, un petit rire?
Non, mais...
Non, pourquoi?
Je crois que Jean-Christophe Cambadélis, il s'est planté sur toute la ligne. Il a une vision très archaïque de la politique. Au contraire, vous savez, moi j'ai quitté le gouvernement en 2014 en disant qu'on allait dans le mur, que ce projet-là, un projet qui n'intégrait pas l'écologie et qui privait d'une partie de soutien à la gauche, était une mauvaise chose. François Hollande n'a pas été candidat, Manuel Valls a perdu. On peut dire au moins que ce que j'avais dit à l'époque était justifié. Qui a gagné? Benoît Hamon, sur un projet qui est extrêmement proche du nôtre, c'est-à-dire un projet écologiste. Donc
celui qui se trompe n'est pas celui ou celle qu'il désigne. L'affaire Fillon... D'ailleurs, par parenthèse, sur l'affaire Fillon, vous avez sur Twitter exprimé de la compassion à l'égard de Pénélope Fillon la semaine dernière, après l'avoir entendu son interview de 2007 récupérée par France 2. Elle est victime dans cette affaire?
Moi, je ne suis pas dans le secret ni du couple de monsieur et madame Fillon, ni de madame Fillon. Mais il se trouve que je suis féministe, et je suis féministe avec toutes les femmes, quelles qu'elles soient, et y compris celles qui sont les épouses d'eux. C'est une longue histoire de l'émancipation féminine, de faire sortir les femmes du statut d'épouse. Et moi, j'ai regardé la vidéo de Pénélope Philippe Fillon, j'ai du mal à penser que cette femme soit une menteuse éhontée qu'elle aurait été si effectivement elle travaillait pour son mari et qu'elle a fait ses déclarations.
Vous comprenez qu'elle ne parle pas, qu'elle laisse son mari assumer seul la défense dans cette affaire qui la concerne au premier chef.
Ce que je comprends pas, c'est que son mari l'ait mise dans cette situation. Voilà, je trouve ça. Et donc je pense que le problème, c'est un problème de François Fillon, mais qui paraît quand même, plus les jours passent, comme quelqu'un de très âpre à l'argent,
très
âpre à l'argent. Et je fais partie de ceux qui sont déçus. Vous savez, quand il a été élu, je me disais qu'il y avait quelque chose d'un peu reposant de rompre avec Big Malion, Sarkozy, toutes ces histoires, qu'il avait l'air honnête. Et moi, qui suis évidemment pas de droite, qui suis une femme écologiste et de gauche, je préfère quand il y a des hommes ou des femmes de droite qui sont en désaccord avec ce que je porte, mais honnêtes et qui donnent pas une image aussi désastreuse de la politique. Donc ça m'a atteinte aussi parce que je trouve que ça salit la politique.
Et c'est dangereux pour la démocratie. C'est un discours là qui commence à prendre un petit peu corps en arrière-plan de cette affaire et des révélations.
Oui, mais en plus sa manière d'expliquer et aussi l'analyse que font certains journalistes de dire oh, regardez, il a montré de la force. Enfin, ça veut dire quoi de mentir avec aplomb et que c'est une qualité? Mentir avec aplomb, pour moi, c'est pas une qualité.
Il faut qu'il quitte la campagne ou il peut continuer à être candidat? C'est sa responsabilité, c'est son choix.
Mais vous savez, j'ai regardé hier de la même manière l'image de la jeune ministre suédoise qui a démissionné parce qu'elle avait bu 2 verres de vin et qu'elle a été contrôlée avec 0,2 g d'alcool dans le sang. On se dit quand même que quelle image on donne à l'étranger, enfin quelle image on donne de la France. Enfin, moi j'ai de la fierté pour mon pays et je me dis que là, entre Madame Le Pen qui refuse de rembourser ce qu'elle doit, Monsieur Fillon, enfin franchement, c'est.
Donc vous ne comprenez pas qu'il maintienne sa candidature?
Non, je comprends pas.
Pas du tout.
Non, je comprends même pas qu'il ait été candidat en sachant ça et en donnant des leçons à la terre entière de probité avec un air très prétentieux.
Juste pour conclure, la Cour des comptes a dénoncé hier le gâchis social et économique de l'écotaxe votée en 2009 et abandonnée en race campagne par le gouvernement en 2013 sous la pression des bonnets rouges. Elle a fait les bons comptes, la Cour des comptes?
Oui, elle a fait les bons comptes et surtout ce qu'il faut dire, c'est que j'ai entendu la ministre de l'écologie dire
elle
oui,
fait
mais...
les comptes. La Cour des comptes, elle déplore cet abandon.
Bien sûr, elle a raison, ça coûte de l'argent et on a dit oui, mais on a trouvé un moyen de le récupérer. Bah, vous savez qui paye? Ce sont les automobilistes à la place des camions étrangers qui en plus, non seulement transportent des marchandises, mais contribue à la pollution. C'est 40 000 morts anticipées du fait de la pollution de l'air. Donc je pense que c'est une erreur funeste, mais ça illustre bien...
L'erreur de qui?
Du gouvernement de M. Valls. Mais je crois que ça illustre quelque chose, le gâchis de ce quinquennat en matière d'écologie.
Merci beaucoup Cécile Duflot d'avoir été notre invitée ce matin dans ce studio d'RTL.
Sur le nez sous bois, Cécile Duflot décrit une police à bout de nerfs et une jeunesse à bout de patience. Il faut que l'enquête sur l'arrestation de Théo aboutisse, nous dit-elle. Concernant l'élection présidentielle, elle nous affirme qu'elle trouve normal le rapprochement à Mont-Jadot. Une convergence historique, nous a-t-elle dit, pour engager la rupture écologique. Merci à toutes les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr, comme chaque jour.